Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 90 Minutes Info. Le débat s'entame juste après le Flash Info aujourd'hui avec Mathieu Devez.
Le Rassemblement National fête ses 50 ans le 5 octobre 1972. Jean-Marie Le Pen lance avec d'autres le Front National pour l'Unité Française. Pour célébrer cet anniversaire, le parti a choisi la sobriété en optant pour un colloque organisé à l'Assemblée Nationale. Un colloque auquel n'est pas invité Jean-Marie Le Pen. L'Union européenne adopte un 8e paquet de sanctions contre la Russie, des sanctions prises après l'annexion de 4 régions ukrainiennes, Zaporijja, Kherson, Lugansk et Donetsk. Les noms et les entités ciblées par ces nouvelles sanctions seront connus demain. Le 28 septembre, l'Union européenne avait notamment proposé de plafonner le prix du pétrole russe et d'ajouter de nouvelles restrictions aux échanges commerciaux avec Moscou. Le gouvernement veut rassurer les entreprises face à la flambée des prix de l'énergie. Plusieurs mesures ont été annoncées par Bruno Le Maire. L'État va notamment faciliter la signature des contrats de gaz et d'électricité pour les entreprises en apportant sa garantie. Un plafonnement du prix de l'électricité à 180 euros le mégawattheure sera également mis en place. Et puisqu'on parle économie, c'est l'heure de la chronique éco avec Éric de Rydmaten.
Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
Nous sommes à J-1 du plus grand rassemblement des chefs d'entreprise en Europe. C'est le BIG, cette fameuse tournée qui maintenant a lieu à Bercy, à l'Accor Arena, demain, jeudi 6 octobre. Patrice Béguet, merci d'être avec nous. Vous êtes l'organisateur. La France est très active en création d'entreprises.
Absolument. Et le Made in France a le vent en poupe. On le voit à travers différents secteurs très porteurs, que sont la cybersécurité, la santé, mais également l'agriculture, tout l'agroalimentaire, tout le secteur du luxe, les transports, la mobilité, l'industrie du futur avec la French Fab et de plus en plus de tech in fab avec les startups. Ouais.
Mais est-ce que ces entreprises ont un taux de survivance satisfaisant?
Alors on dit souvent chez nous qu'une bonne idée n'a pas de prix mais peut avoir un prêt, et on le voit aujourd'hui, la France, et l'INSEE l'a dit, la création, si vous voulez, vous avez 75% d'entreprises qui survivent. Et les entreprises que nous accompagnons chez BPI France ont 90% de taux de survie, d'où l'accompagnement.
C'est ça. Et surtout, la création d'entreprises, ça a un impact considérable sur l'économie du pays.
Ah, mais c'est essentiel, c'est vital pour le développement économique de la France, mais également pour la création d'emplois, et puis l'amélioration, je dirais, au niveau des citoyens, et avec les TPE et les PME qui, aujourd'hui, recrutent et recrutent massivement dans tous les territoires.
Donc, demain, Bercy, à Paris, à l'Accor Arena, avec CNews, pour ce grand rassemblement des entrepreneurs à l'Accor Arena.
C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
En place pour le débat de 90 Minutes Info. Aujourd'hui sur ce plateau, je reçois Judith Ventrop. Bonjour.
Bonjour,
vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Merci d'être là. Jean Messia est à vos côtés, de retour.
Bonjour.
Après l'émission de demain, en pleine forme, j'imagine.
D'hier.
Content de,
ouais.
D'hier. Ça va, c'est moi qui suis pas en pleine forme.
Vous êtes dans un métavers.
Président de l'Institut Apollon, vous me troublez sans doute. Philippe Doucet est porte-parole du PS. Bonjour, merci d'être là aussi.
Bonjour, Nini.
Philippe. Et puis Sandra Buisson qui va nous éclairer pour cette première partie d'émission, puisqu'on va parler de ce démantèlement définitif, a priori, du square Forceval, ce lieu majeur de la consommation de crack à Paris. Il y avait 1000 policiers engagés pour cette opération de démantèlement dès l'aube. On va retrouver sur place Régine Delfour. Régine, vous suivez les opérations depuis plusieurs heures maintenant. A priori, voilà, le nettoyage est complet. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Oui, le nettoyage est complet. En fait, hein, vous le voyez, là, les tentes ont été entièrement enlevées. Il n'y a plus rien. Là, on voit maintenant aussi des agents de la propreté qui sont en train d'enlever les poubelles. Alors, l'objectif, hein, Nelly, c'est évidemment qu'il n'y ait plus de campement ici, porte de la Villette. Je vous rappelle qu'il y avait à peu près 400 consommateurs qui étaient regroupés ici. Alors, c'est un soulagement, hein, pour les riverains de ne plus voir cette concentration, puisqu'en fait, il y a trois communes. Hein. Vous avez Paris 19e, vous avez Pantin et aussi Aubervilliers. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces toxicomanes ont été prévenus du démantèlement ce matin. Alors ils se sont réfugiés dans des rues adjacentes, dans des escaliers, dans des caves et puis dans des parkings. Nous avons pu échanger donc avec des riverains, mais aussi avec des commerçants qui espèrent que cette situation va être pérenne. Mais ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent du retour de ces toxicomanes et espèrent que le camp ne sera pas à nouveau installé.
Merci à vous Régine et merci à Pierre-François Altermat qui vous accompagne aujourd'hui dans le 19e arrondissement. Précision d'ici quelques minutes et on suivra depuis le Sénat. Gérald Darmanin devrait être interpellé par une sénatrice LR sur cette question. Mais avant cela, on va tenter d'aller un petit peu plus loin sur ces questions avec vous. Sandra Buisson, c'est un dossier que vous suivez beaucoup. Qu'est-il prévu maintenant pour ces personnes concernées? Bon, il y en a quelques-uns, on l'a compris, qui errent autour du lieu désormais vidé de ses occupants. Mais qu'est-il prévu aussi de la part des pouvoirs publics pour s'assurer? C'est ça, au fond, la demande des riverains, en premier lieu, que ce camp ne revoie pas le jour.
Oui, contrairement aux dernières évacuations des camps, puisque le camp était à chaque fois déplacé faute de solution pérenne, cette fois, l'évacuation a pour but d'être définitive. Donc les 1000 policiers dont on parle depuis ce matin sont mobilisés sur un minimum 24 heures, voire plus longtemps, tant que cela sera nécessaire pour éviter que le camp se reforme sur ce site ou ailleurs dans la capitale et en Île-de-France. Il y aura donc un travail en continu sur les trafiquants. Ça, c'est le travail des policiers au quotidien depuis des années, interpeller les dealers, interpeller ceux qui fabriquent le crack. Pour les consommateurs qui ont été mis à l'abri, on leur a proposé ce matin un hébergement donc via la préfecture de région d'Île-de-France, avec un suivi médico-social, parce qu'il est très difficile de sortir d'une addiction au crack. Pour certains, il y a la possibilité d'avoir accès à une structure médicale, voire à des lits d'hospitalisation. La PHP avait été sollicitée en amont pour prévoir des lits nécessaires. Et puis, pour les personnes qui sont en situation irrégulière, elles vont être orientées vers un placement en centre de rétention administrative en vue d'une expulsion.
Alors justement, on va parler tout de suite des soins, hein, thérapeutiques. Pourquoi est-il si difficile, on va tenter de comprendre, pourquoi c'est si difficile de sevrer un toxicomane?
Alors, il faut savoir que le crack, c'est vraiment une drogue à part vis-à-vis des autres, les drogues dures que sont l'héroïne, la cocaïne et le cannabis notamment. Le crack s'est fait à partir de cocaïne et s'est mélangé à de l'ammoniac ou du bicarbonate de soude. C'est vendu très peu cher, c'est 5 euros la dose, un caillou de crack, et c'est surtout très addictif. À peine la première consommation et vous avez déjà une addiction extrêmement forte qui provoque rapidement une désocialisation du consommateur qui devient l'ombre de lui-même. On le voit, hein, les habitants qui jouxtent ce camp en témoignent au quotidien. Pour beaucoup, les consommateurs ne vivent ensuite que pour se procurer la dose suivante et avoir l'argent pour le faire. Donc certains se prostituent, volent pour avoir l'argent pour la dose d'après. Et l'autre difficulté, c'est qu'il n'y a pas de produit de substitution. Donc difficile d'entamer ce sevrage. Pour vous dire à quel point ces consommateurs sont dépendants de cette drogue, certains, quand les policiers viennent interpeller les dealers, eh bien, ces consommateurs protègent le dealer parce qu'ils veulent la dose suivante. Certains acceptent d'héberger le cuisinier, celui qui fabrique le crack chez eux, contre de la drogue gratuite. Certains vont accepter de vendre quelques doses. En fait, c'est des sous-vendeurs, des dealers, contre, effectivement, là encore, une dose gratuite. Et puis certains passent même leur journée à regarder à terre s'ils ne peuvent pas trouver des résidus de crack pour avoir un soupçon de dose.
Judith Weintraub, vous restez bien sûr avec nous, vous allez nous être précieuse aussi pour la suite du débat. Parlons de l'aspect politique, évidemment, de ce dossier. Ça fait des années que ça dure. On a vu aussi les pouvoirs publics, enfin les différents responsables du dossier, se rejeter un petit peu la patate chaude, si je puis dire, entre la mairie de Paris. Enfin, il y a eu beaucoup d'atermoiements ces derniers mois. Là, est-ce que vous sentez, de votre point de vue, il y a une vraie volonté politique d'en finir ?
Il y a une volonté politique de répondre à la pression médiatique et au ras-le-bol des habitants. Vous dites que ça fait des années que ça dure. Je crois que ça fait, sauf erreur, environ 4 ans. Voilà. que ça dure. En tout cas, le déplacement.
Oui, le déplacement continuel.
De ce qu'on appelle.
Ce campement était établi là depuis environ un an, mais effectivement, il n'a fait que se déplacer dans le périmètre.
Pour la scène ouverte. Est-ce que ça va être pérenne? Parce que c'est ça la question importante. Alors, ça le serait si on avait prévu des structures pour obliger les drogués qui fréquentent cet endroit, qui stationnent, à se soigner. La loi française le permet. Le juge des libertés peut donner le choix entre une peine de prison, puisque je rappelle que consommer de la drogue est illégal en France, et une injonction thérapeutique. Et une injonction thérapeutique obligatoire. Est-ce que c'est possible de les mettre en hôpital? Non, c'est un cauchemar de suivre ces gens-là en hôpital. C'est affreux. Est-ce que c'est possible de les mettre en prison? Non plus. C'est également ingérable. Est-ce qu'il y a des établissements spécialisés, dédiés à ce type de population? La réponse est non. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution pérenne qui a été prévue pour aider ces gens à s'en sortir et faire en sorte qu'ils arrêtent d'être un danger pour eux-mêmes et pour les autres. Parce que c'est aussi le problème. Les raisons pour lesquelles ce n'est pas fait, il y avait évidemment raisons budgétaires, les mêmes raisons qui font qu'on n'a pas assez de places de prison font qu'on n'a pas ces places d'hébergement dédiées, ces structures dédiées. Mais il y a aussi un problème idéologique. À la mairie de Paris, on vous explique que ça ne sert à rien de forcer les gens à suivre une injonction thérapeutique, qu'il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Mais quand vous leur demandez, la plupart disent « oui, j'aimerais bien m'en sortir », mais sont absolument incapables de s'y tenir. Donc il faut l'intervention du juge.
Philippe Doucet, est-ce que ça vous paraît, dans ces conditions et dans ce qu'elle nous décrit à l'instant, Judith Weintraub, un vœu pieux que ce démantèlement qui se veut définitif?
Non, parce que finalement, quand on veut, on peut. Hein, finalement, là, la démonstration est faite que Gérald Darmanin, après puis ses prédécesseurs, après X mois de polémique avec les riverains dans les médias, finalement, on a trouvé 1000 policiers un beau matin, on a trouvé des structures d'hébergement avec la préfecture d'Île-de-France, on a trouvé au moins momentanément une structure hospitalière ou des bouts de structure hospitalière, même si je partage l'avis de Judith Weintraub, tant qu'on n'a pas une structure spécifique autour de ça. Je pense qu'on aura des difficultés. Quand l'État il veut, il peut. On a quand même des moyens.
La question maintenant, c'est comment casser cette spirale de dépendance.
Mon analyse, je pense que Gilles Weintraub ne sera pas d'accord, mais je pense aussi que ça a servi pendant longtemps, y compris pendant les présidentielles, pour essayer d'enfoncer une épine dans le pied de Anne Hidalgo. Et je pense que d'ailleurs, elle aurait dû se lier pour que ça soit au clair, parce que les problèmes de délinquance, ça relève de l'État. Là, dans ce qu'on évoque, Madame Buisson évoque, c'est la préfecture, c'est l'État, la police, c'est l'État, la PHP, c'est une structure étatique aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut que l'État se mette les moyens, les centres de rétention, c'est aussi l'État. Et donc, d'ailleurs, c'est la difficulté aujourd'hui dans notre machine police-justice, c'est qu'à un moment donné, il faut que l'État se donne les moyens. Le Monde sort ce soir le bilan sur les budgets de justice. Sur l'Allemagne et la France, on voit bien qu'on est divisé par deux par rapport à ça. Oui, notre problème, c'est d'avoir un État régalien qui fonctionne. C'est ça, notre
Jean Messia, puisque je suis censée être d'accord, Anne Hidalgo, elle est contre les injonctions thérapeutiques obligatoires, elle est pour les salles de shoot.
Jean Messia, Philippe Doucet.
Pardon, mais juste là-dessus sur Anne Hidalgo, l'État peut se moquer complètement de ce que pense
Anne Hidalgo. Jean Messia, la parole, s'il vous plaît, sinon je vous coupe le micro.
C'est
la dictature, là. C'est la dictature. Enfin, je me révolte.
C'est pas grave.
D'expérience, je sais qu'il faut suivre les injonctions d'un journaliste, sinon. Non, j'allais dire sur cette affaire.
Je vais me faire engueuler, je vous assure. Je vais encore me faire engueuler.
D'où Jésus, qu'est-ce que ce fut poussif, cette histoire? On voit bien qu'effectivement, quand l'État met les moyens, quand il y a la volonté politique, parce que les moyens, personne ne doute que l'État les a, il faut juste la volonté politique de le faire. Maintenant, si vous voulez, la population de ces craqueurs, que ce soit d'ailleurs les consommateurs ou les producteurs, elle est majoritairement étrangère, sinon totalement étrangère, qu'elle soit légale ou illégale. Donc je dirais que là, ces gens-là n'ont rien à faire chez nous. C'est-à-dire quand on dit qu'il faut effectivement arrêter l'immigration, il faut commencer par ces immigrations-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la France n'a pas à payer les soins, n'a pas à payer les dégâts que provoquent ces populations-là sur son territoire. Je ne comprends pas comment le pouvoir jusqu'à présent a pu mettre l'intérêt des craqueurs, qu'ils soient consommateurs ou producteurs, devant l'intérêt des Français et des riverains à qui cette population pourrit la vie. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter avec ses préférences étrangères tous azimuts.
Je vais vous juste vous poser une question. Quelqu'un qui est dans un sale état, bon, voilà, il a consommé, vous en faites quoi aujourd'hui ?
Ben écoutez, humainement, on peut éventuellement le soigner, mais pas pour le remettre dans la rue. D'accord. On le soigne et on le met dans un avion pour y repartir chez lui. Et un dernier mot sur les associations, parce que j'ai entendu dire que vous aviez des associations qui, effectivement, s'occupent de ces craqueurs, qui les ont prévenus de la descente de police. Donc, sans doute, dans l'optique qu'expliquait Sandra Buisson il y a un instant, c'est-à-dire que les consommateurs protègent leurs producteurs. Mais attendez, ces associations sont en plus financées, elles sont subventionnées. Donc en fait, notre argent, elle ne subventionne pas des associations, elle subventionne des associations de malfaiteurs.
Pour vous, le scandale, il est là, quoi. Sandra Buisson, justement, parlons des trafiquants et du travail des enquêteurs qui se poursuit pour les traquer, ces trafiquants. Parce que c'est là, en fait, le nœud du problème.
Les policiers attaquent le problème à différents niveaux. D'abord, sur l'importation de cette cocaïne. La cocaïne, pour faire le crack, elle doit être très pure. Donc, elle provient majoritairement de Guyane via les mules qui arrivent dans les aéroports de Roissy. On a vu le déplacement du ministre et du ministre de la Justice sur zone ce week-end. De l'autre côté, il y a le travail sur les trafiquants sur zone, ici à Paris notamment. Donc, le cuisinier. En fait, c'est un trafic avec très peu d'intervenants. Ça n'a rien à voir avec les trafics à grande échelle de cannabis, d'héroïne ou de cocaïne. Il y a très peu d'intermédiaires, peu de stock, et donc quand il y a des saisies, c'est quelques centaines de grammes seulement. Donc c'est compliqué d'avoir des peines conséquentes en justice, puisque ça n'a rien à voir avec les saisies qu'on peut faire sur les autres types de drogues. Et donc il y a donc un travail pour identifier et interpeller les cuisiniers, ceux qui vont dans une cuisine. Ils ont besoin de très peu de matériel pour fabriquer du crack, et donc ils le mélangent, cette cocaïne, avec de l'ammoniac ou du bicarbonate de soude. Il faut laisser le temps aux enquêteurs, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, pour remonter et pour surveiller ces fabricants, pour avoir suffisamment d'éléments à charge pour que la peine ensuite en justice soit conséquente. En mai dernier, par exemple, il y a l'équivalent de 2000 cailloux de crack qui ont été saisis dans une opération de police. Ouais. Ensuite, il faut s'attaquer aux vendeurs, aux dealers. Eux, ils ont très peu de produits sur eux quand ils vendent. Là, c'était dans le camp, mais ça pouvait être place de Stalingrad avant. Et les cailloux, quand ils les ont, il faut savoir qu'ils les mettent dans la bouche, entourés de cellophane, pour pouvoir les avaler dès que les policiers viennent les interpeller, pour être pris avec le moins possible sur eux, pour avoir la peine la minimum.
En tout cas, ce dossier suscite beaucoup de réactions politiques. Je vous propose d'écouter celle de Fabien Roussel pour le Parti communiste.
On peut démanteler ce camp, ce n'est pas la première fois, il va être déplacé. Si on ne s'attaque pas à la tête du réseau, à la base du trafic, ce camp se reformera ailleurs. En France, il y a eu, en l'espace de 20 ans, la suppression de plusieurs milliers d'emplois chez les douanes. Il y a eu, sous Sarkozy, 15 000 suppressions de postes de policiers. On a à peine rattrapé le nombre de policiers disparus. Et donc, on a besoin de s'attaquer au trafic. On a besoin d'inspecteurs du fisc pour lutter contre le blanchiment d'argent.
Bon, Jean Messia, clairement, il dit on a réduit les agents. Le problème, il est là ?
Non, mais là, enfin, il a raison sur un point, c'est qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on essaie de régler ce problème et qu'il faut s'attaquer au mal à la racine. Maintenant, le problème, si vous voulez, c'est que la gauche nous excipe toujours de la problématique des moyens pour régler tous les problèmes. Bien sûr qu'il faut des moyens, mais au-delà des moyens, il faut surtout réduire les causes. Parce que si vous maintenez, encore une fois, les vannes, grandes ouvertes, les vannes de l'immigration, avec une proportion dite de ces migrants qui est criminogène et délinquante, vous pouvez en aval mettre tous les moyens que vous pouvez pour lutter contre les conséquences que ça n'aura pas lieu. Donc si déjà on pouvait commencer par réduire l'afflux de ce type de population qui nous pourrit la vie en termes de délinquance et de criminalité, je peux vous dire que les moyens modiques que l'on met aujourd'hui en œuvre sur le terrain auraient un peu plus d'effet qu'en laissant cet océan submergé tous les moyens supplémentaires qu'on peut mettre.
La réponse de Philippe Doucet qui a retrouvé l'usage de son micro. Compère est reparti.
La censure, je suis censuré par Nelly. Non, mais bon, l'État régalien, il faut qu'il y ait des moyens qui fonctionnent. Madame évoquait ce qui s'est passé en Guyane. Ceux qui prennent l'avion, parce que pour faire le trafic de cocaïne entre la Guyane et la métropole, ils n'y vont pas en canoë-kayak de Cayenne à Paris. Donc ils prennent un avion. Et donc là, ça fait des années que les élus locaux, pour des Guyanais, des Français guyanais, prenaient l'avion. Et on vient juste, On va installer une machine pour vérifier que les mules...
Ouais, faut réduire les vols.
Ne prennent pas l'avion. Donc en fait, ils prennent un avion Air France, Guyane, Métropole, avec de la cocaïne dedans. Sauf si vous êtes pour l'indépendance de la Guyane, monsieur Messière. Mais donc on voit bien que ce trafic-là, il se fait chez nous, entre Français, pour reprendre...
Mais attendez, si on vous comprend bien, ça veut dire qu'on peut...
Et donc, du coup...
C'est faux, parce que c'est pas l'origine, ça, c'est un maillon, la Guyane, et vous savez très bien.
D'accord, mais le maillon...
Ça vient du Brésil, de l'Amérique du Sud, etc.
Non, mais ce que vous dites...
Sauf que, du coup, derrière...
Ce que vous dites, c'est qu'on peut les identifier à l'embarquement.
Bah oui, derrière, c'est l'intérêt de ce qui va se faire sur la... Voilà, ça se fait déjà, mais là...
L'essentiel de la drogue vient du Maroc, vous savez très bien, et du Maghreb.
Le cannabis, pas la cocaïne. Le Maroc ne fait pas encore de la cocaïne dans les produits d'exportation. Ça viendra peut-être. Mais en attendant, aujourd'hui, le sujet, c'est d'avoir un État régalien. Et donc, il suffit d'arriver à Roissy. Vous allez dans n'importe quel pays pour voir ce qu'il y a un contrôle aux frontières. Vous allez au Canada, vous allez aux États-Unis, vous passez les frontières. Ça n'a rien à voir avec le bazar qu'on a à Roissy et le contrôle que ça peut se faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a combien de la police de l'air et des frontières, on a enlevé les effectifs de combien ?
Parce que l'État progressiste que vous soutenez a mis à poil l'ensemble de notre
Je ne sais pas si Nicolas Sarkozy était un État progressiste.
Nicolas Sarkozy est un État progressiste.
Le champ des progressistes.
C'est un progressiste de droite, effectivement.
Le champ des progressistes est très large pour M. Messia. J'ai appris un truc.
Il n'a pas utilisé le Karcher, donc il est progressiste.
Allez, après ces punchlines, Judith Weintraub.
Moi, je veux bien que, presque 10 ans après, ce soit toujours la faute de Nicolas Sarkozy, la RGPP, la Réduction Générale des Politiques Publiques. Mais quand même, en 10 ans, il y a eu d'autres personnes au pouvoir et d'autres moyens, normalement, première chose. Deuxième chose, sur la difficulté à confondre les cuisiniers. Mais en fait, ce n'est pas la peine. Puisqu'ils sont à plus de 95%, selon toutes les informations qu'on a, des étrangers en situation irrégulière. On n'avait pas besoin qu'en plus ils soient délinquants. Vous les expulsez, point.
Il faut les arrêter, les identifier. Oui, il y a besoin d'une enquête. Oui. Et une fois que vous avez identifié une infraction pénale, il faut
d'après
que
D'après M. Doucet, c'est des Guyanais.
Ce
qu'elle veut dire, c'est que ce n'est pas la peine qu'ils aient commis un méfait pour qu'ils soient expulsables, en fait.
Non, mais je suis d'accord, mais il faut les trouver. Et ça nécessite une
enquête.
Là, ils les ont attrapés, non ? Ils les ont déplacés.
Ils sont aux abords, sans rien.
Là aussi, pardon, Nelly, mais là, on est sur l'État. Il y a des règles de droit.
Les cuisiniers ne sont pas dans le camp, ils sont dans des... ils sont pas
dans
sur
des squats, dans des...
Donc on parle des cuisiniers, de ceux qui fabriquent cela. Pour les trouver, il faut faire une enquête. Quand il y a une enquête, il y a une infraction pénale éventuellement qui est montrée. S'il y a une infraction pénale, il faut être jugé. Et si on est jugé et qu'on a une peine, on doit la purger. En France, la voie judiciaire prime sur la voie administrative. Une fois que vous avez purgé cette peine, vous pouvez...
Alors justement, parlons de la difficulté
d'expulser... En quoi tout ça est infaisable ? C'est ça ce que je ne comprends pas.
Mais moi, je vous explique la procédure.
Parlons de la difficulté d'expulser les étrangers qui sont en situation irrégulière et qui sont impliqués dans ce trafic. Ça aussi, c'est encore un autre nœud du problème.
Alors, on parlait de l'importation de la cocaïne qui se fait pour l'utilisation dans le crack via la Guyane. En revanche, les trafiquants, qu'ils soient les cuisiniers ou les dealers, sont majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest. Beaucoup se disent venir du Sénégal ou de Côte d'Ivoire. C'est très difficile de vérifier d'où ils viennent réellement parce qu'ils jettent les papiers qui permettent de les identifier, qu'ils disent souvent qu'ils viennent d'un pays où ils savent qu'ils ne peuvent pas être expulsés. Et puis quand on a identifié le pays, il faut que le pays qui identifie son ressortissant réponde sous les 90 jours pendant lesquels vous pouvez être placé en CRA. Et il faut que le pays délivre le laissez-passer consulaire. Et puis une fois qu'il l'a fait, il faut savoir que par exemple le Sénégal impose un test Covid désormais. Donc si le migrant refuse le test Covid, il ne peut pas être expulsé et il est judiciarisé en France parce qu'il préfère être judiciarisé en France plutôt que d'être renvoyé. Pour vous donner une idée de la difficulté à expulser, ce que nous disait une source policière, entre janvier et septembre cette année, 56 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés en lien avec le trafic de crack. Sur ces 56 personnes, 7 ont été éloignées.
Non mais c'est marrant, si vous voulez, parce que sur les questions migratoires, quelles qu'elles soient, c'est là où le gouvernement nous explique absolument et en permanence l'impossibilisme. C'est-à-dire, on ne peut rien faire. Quand on voit des pays comme l'Algérie qui arrivent à obtenir des centaines et des centaines de laissez-passer consulaires pour des Nigérians, des Africains, des Subsahariens, etc., ils sont plus forts que nous. L'Algérie est plus forte que la France. C'est la première chose. Alors, ils obtiennent des laissez-passer consulaires et ils les virent manu militari également. Donc, ça veut dire que c'est possible. Pourquoi est-ce que la France est contre ? Pourquoi nous avons un gouvernement depuis 40 ans qui nous explique qu'en matière migratoire, on ne peut strictement rien faire ? Par contre, en matière sanitaire, on vous a interdit d'aller boire un café sans avoir un Ausweis. Ça, c'est pas ça, c'est passé crème. Mais par contre, virer des gens.
Ausweis a une histoire.
Déjà.
Ausweis a une histoire.
Peut-être, mais enfin, si vous voulez...
Faut faire attention, M. Messia, si vous permettez.
Je suis un peu en colère.
C'est pas une raison.
Lorsqu'il s'agit des frais des Français,
leur importance.
Lorsqu'il s'agit de la limitation des libertés des Français pour toutes les raisons, et la dernière fut sanitaire, là, ça a été open bar et on a trouvé tout le volontarisme et tous les moyens pour l'appliquer. Mais par contre, pour ce qui concerne le respect de l'identité de la France, de la sécurité de la France, il n'y a plus personne. On vous explique
qu'on
n'a ni pied, ni main, ni tête.
Marquez
une pause. En Algérie, il y a peut-être des militaires à la tête et en France, il n'y a pas de militaires.
On est gouverné par des hommes trop.
Pause. Voilà. On marque une pause, on revient et on en reparlera parce que je vous le disais, il y aura sans doute une question posée à Gérald Darmanin, dans ce sens, lors de la séance des questions au gouvernement, au Sénat, aujourd'hui. À tout de suite. Un débat vif, animé, c'est la promesse du jour entre, je vous l'assure, entre Philippe Doucet, Judith Vintraube et Jean Messia, qui sont toujours avec moi. On va juste faire un petit rappel des principaux titres de l'actualité, à commencer par ce qui s'est passé cette nuit aux alentours de 2h du matin à Saint-Martin-d'Hères, où une jeune femme de 18 ans est morte après un échange de coups de feu entre des policiers et un conducteur de voiture qui refusait de se soumettre au contrôle, qui avait même foncé sur les policiers avant de tirer dans leur direction. Les trois policiers de cette opération ainsi que le conducteur ont été placés en garde à vue. Explication du secrétaire départemental de l'Alliance Police Nationale de l'Isère.
Mes collègues ont décidé de contrôler un véhicule qui avait un comportement particulier. Donc, pour être clair avec vous, il était arrêté très loin d'un feu au milieu de la route. Donc, ils ont décidé de le contrôler. Celui-ci, quand il a vu le véhicule de police arriver vers lui, a pris tous les risques pour échapper à la police, à tel point qu'il a tiré en direction de mes collègues à trois reprises, tout en roulant. Donc, pour arrêter cette agression, ils n'ont pas eu d'autre choix que de faire usage de leur arme.
Parlons du retour du masque obligatoire. C'est à l'étude, assure la présidence du COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Le nombre de cas positifs, vous le savez, augmente dans notre pays. Une hausse de 32% a été observée par rapport à la semaine dernière. Mais cette mesure même du port du masque obligatoire, eh bien, elle divise le corps médical. Écoutons.
Il faut essayer de convaincre les Français de se remettre à porter le masque. D'abord, en particulier dans les transports, et dans les lieux clos mal aérés avec des quantités de personnes relativement importantes simultanément. Je crois que ça doit être quelque chose qui doit revenir régulièrement.
Porter le masque de façon obligatoire dans les transports en commun, ça ne changera rien. Je rappelle que quand il y avait 1 million de cas par jour en décembre 2021, on avait le masque obligatoire dans les transports. Donc ce sera de l'affichage et ça ne changera absolument rien.
Après Paris, Lille et Lyon, Grenoble ce matin, le boycott de la Coupe du Monde de foot au Qatar par les villes françaises, les grandes villes françaises en outre, se poursuit. Des communes qui refusent d'installer ce qu'on appelle les fan zones ou encore de diffuser les matchs sur grand écran. C'est une décision environnementale et politique, mais aussi une perte financière pour les gérants de bars qui accueilleraient tous les supporters et qui, pour certains, en prennent ombrage. Enfin, Marion Cotillard, Juliette Binoche, Angèle, une cinquantaine de personnalités francophones ont décidé de se couper les cheveux dans une vidéo publiée sur Instagram. Elle a d'ores et déjà été visionnée plus de 2 millions de fois. C'est évidemment un geste symbolique en soutien aux femmes iraniennes qui sont mobilisées depuis plus de 2 semaines après la mort de Mahsa Amini. Voilà pour l'essentiel. On va revenir à cette problématique du démantèlement du camp de Forceval dans le 19e arrondissement parisien, avec une autre réaction. On s'interrogeait tout à l'heure avec nos invités sur la pérennité de ce genre d'opérations policières très médiatiques, de grande envergure, parce qu'il y a quand même eu 1000 hommes qui étaient mobilisés pour cette opération, sur un périmètre somme toute assez réduit. Mais comment s'assurer que ces consommateurs de crack ne reviennent pas sur les lieux ou alentours? Écoutez l'avis de cette femme qui appartient au collectif Anti-Crack 93.
Aujourd'hui, on est un peu sceptique là sur cette évacuation parce que effectivement, on n'a pas l'impression que elle soit suivie de tout ce qu'on demandait avec l'évacuation, c'est-à-dire véritablement des solutions qui ont été discutées, envisagées par tous les protagonistes et véritablement une prise en charge et un accompagnement de ces personnes. On a peur que ce soit bis repetita, de quelque chose qui dure depuis une dizaine d'années.
Bon, Judith Vintraube, c'est vrai que c'est compliqué de se dire qu'il n'y aura plus jamais rien au-delà de l'affichage politique et médiatique du moment. Il ne faudrait pas qu'on voit ressurgir ce genre de campement sauvage dans 2-3 mois, même avant.
Bien sûr, c'est compliqué, mais apparemment, c'est compliqué, surtout en France. On sait, parce que les policiers le disent, les enquêtes le confirment, que les dealers sont à 90-95% des étrangers en situation irrégulière. Tout à l'heure, on nous a expliqué combien c'était effectivement compliqué, les démarches pour obtenir des visas consulaires, pour que les étrangers en situation irrégulière acceptent de subir un test Covid afin d'être mis dans l'avion, etc. etc. Juste une chose, l'Allemagne, qui est un pays, je pense, comparable au nôtre, en 2019, donc avant le Covid, expulsait 53% de ces étrangers en situation irrégulière. C'est pas formidable, mais c'est plus de la moitié.
On est autour de 10-12, non ?
12,6. J'ai les chiffres précisément de 2019, 12,6. Vous voyez le fossé ?
Mais c'est encore.
Oui.
Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que les Allemands y arrivent et pas nous ?
C'est pas Jean Messia qui va vous...
J'ai quand même un élément de réponse, c'est que nous... on a supprimé, et c'est Manuel Valls qui l'a fait, le délit de séjour irrégulier. Quand vous êtes clandestin en France, ce n'est pas un délit en soi.
Jean Messia pour la réponse.
Non, mais c'est une statistique que je citais souvent, justement, parce qu'à chaque fois qu'on parle des pays du Sud, on nous dit mais vous ne pouvez pas comparer les pays du Sud avec la France c'est autre chose. Outre le fait qu'un tel propos est particulièrement dédaigneux pour les pays du Sud, on peut comparer avec l'Allemagne, effectivement. Et là, on s'aperçoit que l'Allemagne a des taux de reconduite à la frontière qui sont sans commune mesure avec les nôtres, 4 à 4,5 fois plus que les nôtres. Donc je ne vois pas pourquoi le gouvernement français se lie les pieds et les poings en permanence, sa seule politique et sa seule communication, revenant simplement à expliquer pourquoi il ne peut pas faire. Les Français, ça fait des 40 ans qu'ils élisent des gens qui leur expliquent pourquoi, sur ce domaine-là en particulier, c'est-à-dire le domaine de l'immigration et plus particulièrement de l'immigration irrégulière, tous les gouvernements vous expliquent qu'il est impossible d'agir. Il est possible d'avoir des actions outrancières dans tous les domaines, sauf dans celui-ci, parce que nous sommes dans une forme, même dans une idéologie qui veut que toujours et partout l'immigration soit un bienfait. D'ailleurs, la politique d'Emmanuel Macron ne consiste pas à arrêter l'immigration, elle consiste à la répartir. On se demande d'ailleurs si les craqueurs qui viennent d'être évacués de Paris, pour le coup, ne vont pas rentrer dans la répartition et dans la ventilation des migrants tels qu'imaginés par Emmanuel Macron. Peut-être que demain, on va les retrouver dans le Gers.
Philippe Doucet, c'est vrai que le problème pourrait s'exporter sur d'autres terrains, sur d'autres territoires.
Oui, mais enfin, Jean Messia est en boucle pensant qu'il y a une idéologie. Aujourd'hui, si un homme politique ou une femme politique a envie de faire un carton par rapport à ça, il a intérêt à reprendre vos propos, puisqu'il y a une demande forte de la population par rapport à ça. Donc je ne vois pas pourquoi Emmanuel Macron ou d'autres, vos amis, seraient opposés à cette lumière, ne porteraient pas. Enfin, on a eu les Républicains et tout.
Qu'est-ce qui explique la différence entre
Je ne sais pas, moi, je regardais les chiffres, parce que ce qui était intéressant avec ce qu'expliquait la journaliste, c'est qu'il y a un temps de procédure. Enfin, soit on a le système algérien où on pousse tout le monde.
Qu'est-ce qui explique
c'est peut-être les moyens. Il y a des moyens judiciaires. Là, les chiffres qui viennent de tomber, la France, c'est 72,3 euros par an, par habitant, pour la justice, donc pour toutes les procédures. Et pour l'Allemagne, c'est 141 euros. Et donc on a moitié moins de juges. On a moitié moins de juges. Non, c'est pas. Je dis pas qu'il n'y a qu'un problème d'argent. Moi, j'ai jamais pensé que le monde était en noir et blanc. Ça fait longtemps.
Et pour l'immigration, c'est combien par français ? Vous pouvez
donc,
vous donner les chiffres.
Et là, du coup, sur les logiques de justice, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des procédures judiciaires complexes, puisque faut non seulement en termes de policiers les arrêter, mais aussi monter des procédures, qu'il y ait des condamnations. À un moment donné, d'accord, vous allez dans n'importe quel tribunal aujourd'hui, tout ça est complètement
Doucet,
engorgé quand même, partout, et,
Philippe
France,
Doucet,
et notamment
pourquoi,
en Île-de-France.
Pourquoi un tel fatalisme quand même ? On a des leviers pour faire pression sur les pays récipiendaires de ces individus.
Oui, mais ça, par exemple, si on prend, prenons les pays d'Afrique de l'Ouest, ou même ceux d'Afrique du Nord, mais ça, c'est un choix. Derrière, on peut être en logique, conflictuelle, et moi, à titre personnel, ça ne me pose pas de soucis, parce que d'avoir des discussions rude avec nos amis marocains, algériens, tunisiens, par exemple, ou avec le Sénégal et Côte d'Ivoire. Ce sont des pays amis. Donc, à un moment donné, faut avoir aussi des discussions plus diplomatiques, plus rudes. Manifestement, on ne souhaite pas les avoir, soit parce qu'on a des accords de sécurité, par exemple, les liens entre les services de sécurité français et les services de sécurité marocains sur la question du terrorisme et de l'antiterrorisme notamment, sont extrêmement étroits. Et donc, du coup, on a cette espèce de négociation-là. Peut-être qu'à mon avis, il faut en changer les termes
Jean Messia, est-ce qu'il faut considérer, par exemple,
qu'il soit juste respecté.
Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, que le dernier déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie était un camouflet pour lui, pour la France?
C'est un camouflet. Alors, juste une petite réponse à Philippe Doucet, qui vous dites pas la vérité, parce qu'en fait, vous avez tendance à présenter.
Je dis pas la vérité, les chiffres là, oui, sur le budget de la justice, ils sont vrais.
Le problème en France, c'est l'exécution des OQTF. C'est pas le fait qu'il y ait une justice pour les délivrer. Les OQTF, elles sont délivrées, donc il n'y a pas de problème de justice. Il y a un problème d'exécution.
C'est-à-dire
de reconduite à la frontière.
On rentre sur des problèmes diplomatiques. D'accord, mais donc du coup, on gère comment les questions diplomatiques?
Mais comment font les Allemands?
Non mais d'accord, bon, peut-être que les Allemands, mais
Donc,
regardez d'où vient l'immigration allemande, elle vient essentiellement de la Turquie, de Moyen-Orient. Elle vient d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne.
Vous avez commencé,
comment on négocie?
Et donc c'est plus dur?
Comment?
C'est plus dur de négocier avec eux qu'avec la Turquie.
Les Allemands ont peut-être fait d'autres choix diplomatiques. Nous, peut-être qu'il faut qu'on fasse d'autres choix diplomatiques que ceux qu'on fait aujourd'hui.
Vous avez commencé cette émission en disant que quand on veut, on peut, s'agissant de l'évacuation des campements. Mais ce principe-là, il s'applique à toutes les politiques, y compris la politique migratoire et la politique étrangère. Point final. Ça, c'est une chose. Et pour répondre à votre question sur Emmanuel Macron, en fait, ce qui a été négocié Emmanuel Macron, ce qui n'a pas vraiment été dit à l'opinion publique française, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron a obtenu plus ou moins la reconduite, l'expulsion de tous les clandestins algériens qui sont criminels ou délinquants, que l'Algérie va accepter de reprendre, moyennant quoi Macron va fermer les yeux sur les clandestins qui, eux, ne posent pas de problème, voire va en reprendre d'autres. Donc on est dans un jeu de poker menteur où, pour faire plaisir à l'opinion publique française et pour montrer qu'on fait quelque chose, effectivement, on va expulser des gens qui sont connus, qui ont été condamnés pour délinquance et pour criminalité. Voilà, une sorte d'échange. Et donc, ça va permettre à Emmanuel Macron et à son gouvernement de dire, voyez, le gouvernement travaille pour lutter contre l'immigration clandestine, et notamment l'immigration clandestine nuisible. Sauf que tout le reste, on n'y touchera pas et on en prendra d'autres.
On part au Sénat pour écouter une question à l'adresse de Gérald Darmanin, justement.
Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, ce matin, vous avez ordonné l'évacuation du campement du Crac, situé dans le square Forceval à Paris, le prolongement de la colline du Crac, cette colline de l'enfer. Annoncée comme une opération d'envergure dans la lutte contre la drogue dans la capitale, une question demeure, monsieur le ministre. Où sont-ils allés? Où vont-ils aller? Seront-ils soignés? Les opérations de ces dernières années ont montré que les consommateurs et leurs dealers changeaient d'endroit rapidement, souvent d'ailleurs peu de temps avant le passage des forces de l'ordre. Cette situation reste un drame humain considérable pour ces centaines de personnes qui se droguent sous nos yeux. À ceci s'ajoutent des scènes d'une violence inouïe qui se déroulent tous les jours dans la capitale, comme par exemple l'agression d'un bébé, de policiers, d'un pharmacien, d'une opticienne, d'une femme poussée sur les rails du métro, et sans oublier tout dernièrement l'agression extrêmement violente d'un homme de 92 ans roué de coups par une toxicomane. À Paris, c'est une évidence, le plan crack est un échec. Le problème n'est pas traité, juste déplacé du 19e au 18e arrondissement ou inversement. Alors, monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour éradiquer définitivement le trafic et la consommation du crack à Paris?
Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre.
Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. En effet, ce matin tôt, à peu près un millier de policiers étaient dans le 19e arrondissement de Paris pour procéder à la destruction, après réquisition des services de la ville de Paris, on pourrait appeler ça une ville, je mets des guillemets, parallèle, celle de la colline du Crac, comme vous l'avez évoqué, notamment du square de Forceval, mais également pour pouvoir interpeller les personnes qui passent leur nuit là. Vous savez qu'ils sont à peu près 200 la nuit et à peu près entre 600 et 700 le jour. Tout dépend évidemment d'un certain nombre d'aléas, puisque nous avons compté jusqu'à 17 points de deal du Crac. Et je voudrais dire que cette année, depuis le 1er janvier, il y a eu 772 affaires faite par la police parisienne, et dont 584 personnes interpellées, ce qui montre à chacune et à chacun le travail qui était déjà fait auparavant. Mais après m'avoir trouvé auprès de Madame la Première Ministre, j'ai décidé cette opération qui permettra de laisser pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois s'il le faut, des centaines de policiers à Paris, entre la place de Stalingrad jusque les deux villes de Bervilliers et de Pantin, pour empêcher évidemment la reconstitution de ces villages. Il ne s'agit pas de les déplacer, mais il s'agit évidemment de mettre fin à ce village de drogue à ciel ouvert. Il y a eu ce matin 211 contrôles de personnes, 52 personnes étaient sous l'infraction à la législation sur les étrangers. En gros, ils étaient irréguliers sur le territoire national. Ils ont donc été conduits, ils sont en train d'être conduits dans les centres de rétention administratifs au moment où nous parlons. Nous avons réservé 70 places de CRA pour pouvoir justement permettre de mettre ces personnes dans les CRA et pouvoir les expulser du territoire national. 63 ont été mises à l'abri, notamment des femmes particulièrement vulnérables. 39 interpellations, dont 17 fiches de recherche, monsieur le garde des Sceaux. 6 infractions à la législation sur les stupéfiants. 11 personnes qui avaient des armes et un pistolet automatique d'ailleurs a été retrouvé ce matin très tôt. 5 hospitalisations d'office. Madame la sénatrice, l'État a pris ses responsabilités pour mettre fin à ce désordre que les Parisiens ne pouvaient plus accepter. Il faut désormais qu'en lien avec, bien sûr, la santé, les collectivités locales, vous le savez bien, prennent aussi leurs responsabilités. C'est le sens des appels que nous avons eus avec Madame la maire de Paris, que j'ai prévenue hier. C'est le sens du travail que Madame la Première ministre et moi-même appelons avec mon collègue de la Santé, partenarial avec la région Île-de-France, avec la ville de Paris, pour que l'ordre soit maintenu, bien évidemment, mais que le suivi sanitaire soit particulièrement maintenu également.
Madame Dumas.
Merci, monsieur le ministre. Bon, je prends note de ces éléments qui sont censés répondre à l'inquiétude et à la colère, surtout des habitants, des riverains, mais aussi à l'impatience des élus parisiens. Avec les élus du groupe Changer Paris, sous la présidence de Rachida Dati, nous prendrons d'ailleurs une initiative lors du prochain Conseil de Paris. À cette occasion, nous comptons sur le plein soutien du préfet de police, Laurent Nunez, d'autant que l'exécutif parisien a montré toutes ces dernières années son incompétence, son inefficacité en la matière. Alors, monsieur le ministre, votre responsabilité est grande. Ne laissez pas perdurer dans notre capitale le plus grand marché à ciel ouvert de crack en France. Si.
Voilà, c'était un droit de réponse pour Catherine Dumas, sénatrice LR. Gérald Darmanin, Judith Weintraub, il a donné un certain nombre de chiffres. Le nombre aussi de PV qui ont été dressés ce matin. Il y a deux, trois choses qui vous ont interpellé d'ailleurs.
Bah oui, déjà, il nous dit 584 interpellés en tout. Très bien. Et sur les 584, la question essentielle, c'est qu'est-ce qui va se passer après. 52 personnes seulement sur 211 ont été conduites vers des CRA, c'est-à-dire des centres de rétention administrative pour les étrangers en situation irrégulière. Quid des autres? Autre chiffre étonnant, apparemment, il n'y aurait eu que 6 infractions à la législation sur les stupéfiants. On s'est trompé d'endroit, là, c'est pas possible.
Sur les 500 personnes
oui,
qui ont été interpellées.
Parce que 6 infractions à la législation sur les stupéfiants,
non, c'est pour,
à la
c'est pour les raisons crack. Qu'évoquait
c'est quand même
Sandra Buisson.
Qu'évoquait Sandra Buisson, c'est qu'en fait, ils s'arrangent pour ne pas avoir de drogue sur eux au moment de l'interpellation. Ou ils l'avalent, ou ils la jettent.
Ils n'ont pas pu les prendre en flagrance,
ils n'ont pas pu les prendre en flagrance.
Grâce aux rendus aux associations, n'est-ce pas ?
Il y a quand même des armes aussi qui circulaient. Oui. C'est ce qu'on a appris là, une dizaine d'armes qui ont été récupérées à cette occasion. Donc voilà, il y a quand même tout type de trafic auquel se livrent aussi les gens qui gravitent dans ce milieu. Quoi.
Disons que ce qu'on a entendu là, je rejoins ce que disait Mme Weintraub un instant, c'est que ça revient quand même un petit peu à mettre la poussière sous le tapis. Hein. C'est-à-dire que c'est une opération qui est à la fois spectaculaire dans les moyens qui sont déployés, avec les caméras évidemment, spectaculaire aussi dans ses résultats. On a vu des images de la colline du Crac telle qu'elle existait peut-être il y a 30 ou 40 ans, c'est-à-dire parfaitement libre de tout trafic. Donc c'est effectivement, ça impressionne, ça en met plein les yeux, mais quid du jour d'après ? Qu'est-ce qui va se passer quand on va présenter là ces gens-là, une fois interpellés devant la justice? Est-ce qu'on d'ailleurs on va les présenter? S'ils sont présentés, qu'est-ce que la justice va décider? Probablement d'un rappel à la loi pour la plupart ou de peines ridicules comme un certain nombre de juges nous ont habitués ces dernières années. Et je crains que ça ne soit pas la dernière fois qu'on soit sur ce plateau pour parler de cette histoire.
Je vous rappelle quand même les chiffres entre janvier et septembre 2022. Ce sont les chiffres que nous donnait tout à l'heure Sandra Buisson, effectivement. 56 interpellations dans ce cadre pour, au final, 7 individus qui ont été éloignés. Voilà, ça donne un petit peu la mesure de l'efficacité de telle mesure.
C'est la montagne qui accouche d'une souris.
Vous dites qu'il est défaitiste, mais enfin tout à l'heure vous pointiez quand même un certain fatalisme en matière.
Non, mais là il y a deux choses.
Je décris ce que fait le gouvernement.
Non, avec juste un œil totalement biaisé.
Neuf et objectif.
Neuf, je ne sais pas.
Donc, comme l'éclair.
Honnêtement, aujourd'hui, il y a une opération qui a été réalisée, comme quoi l'État, quand il met les moyens, arrive à organiser ces différentes parties, la préfecture, les hôpitaux, etc. Donc ça, c'est une chose. Mais après, il faut qu'effectivement, il y ait suivi. L'intérêt du monde d'aujourd'hui, si je puis dire, c'est que, les riverains vont évidemment continuer à suivre parce qu'ils sont les premiers concernés. Les journalistes vont continuer à suivre et nous aussi. Donc, de toute façon, on va vite savoir si le camp se reconstitue, comment, combien il y en a qui sont finalement expulsés, combien il y en a qui sont soignés. À l'arrivée, quand même, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, comme on l'avait déjà eu l'occasion de... J'ai déjà eu l'occasion de dire, je pense qu'il est urgent d'avoir, dans un ou deux hôpitaux parisiens, d'avoir une structure spécifique, parce que ça ne peut pas être dedans.
Il ne faut surtout pas les mélanger.
Donc, surtout pas les mélanger, mais des structures sanitaires. L'avantage des hôpitaux parisiens, c'est que comme c'est des hôpitaux à l'ancienne, ils sont entourés de murs et ça, donc ils sont isolés.
Vous pourriez même parler des hôpitaux désaffectés.
Tout à fait. Il y a même effectivement un hôpital désaffecté ou qui va l'être. Donc, effectivement, il faut des structures sanitaires spécifiques. Parce
enfin,
que
là, c'est un peu des moyens aussi.
La difficulté de ça, c'est que, Sandra Buisson l'évoquait, c'est qu'à la première prise du crack, on n'est pas comme sur on fume un pétard. Il faut que nos téléspectateurs comprennent. On n'est pas sur les gens fument une cigarette de cannabis.
Donc, ça veut dire, ça veut
on n'a pas d'argent pour ça, c'est ça le problème.
Il faut les détenir.
Voilà.
Ça veut dire que c'est pas à ce jour-là.
Oui, mais, sur l'injonction thérapeutique, je rappelle que.
Obligatoire.
Mais je rappelle que, d'ailleurs, quand j'étais maire d'Argenteuil, les maires ont le droit, je pense les préfets aussi, à l'internement pour les gens qui mettent des gens en péril.
Mais monter ces structures avec quel argent même
mais la contradiction congénitale de votre raisonnement et de la gauche de manière générale, c'est une contradiction. Je dirais presque ontologique, c'est-à-dire que vous nous dites à chaque fois, les étrangers qui posent ce genre de problème comme les craqueurs, qu'à cela ne tienne, ouvrons des hôpitaux, prenons des personnels médicaux dédiés, créons des places en psychiatrie, tout ça est très bien, mais si vous voulez, par ailleurs, le problème, c'est que vous parlez à un pays qui est tellement endetté qu'on est obligé de désertifier des territoires entiers de services publics, qu'on est obligé de fermer des lits d'hôpitaux, qu'on est obligé de retirer
vous allez devenir de gauche défendant les services publics, monsieur Messia. Faites attention, vous filez un mauvais coton.
Pas du tout, moi je défends l'idée que les moyens...
Pour les super profits.
Les moyens dont dispose la France, si moyens il y a, doivent d'abord servir à ceux qui en payent le prix, c'est-à-dire aux contribuables français.
Oui,
voilà. Donc ne me dites pas.
Comme le monde n'est pas en noir et blanc et que les choses sont pas. Le monde, l'action politique, c'est pas simplement on allume ou on éteint la lumière. Aujourd'hui, vous avez une difficulté par rapport à ça. Moi, je préfère. Pour les riverains aujourd'hui et pour les pauvres personnes qui sont droguées, qui puissent être dans des structures sanitaires,
c'est inaudible.
Plutôt qu'ils embêtent le monde tout le temps, il faut les renvoyer chez eux.
Vous pouvez pas expliquer si vous voulez à Gisèle.
Mais si vous pensez que juste en faisant,
on peut en placer une.
Vous allez tout régler.
Non, justement, mais ça réglait plus de problèmes qu'en les laissant chez nous. Excusez-moi.
Vous voyez comme c'est difficile après vous interrompre. Non, mais juste
vous pouvez pas expliquer à Gisèle et Gérard qui dorment dans leur voiture, qui sont français, qui sont des retraités qui ont travaillé toute leur vie en cotisant, qui dorment dans leur voiture parce qu'on n'arrive pas à leur trouver un logement, vous ne pouvez pas leur expliquer à eux qu'effectivement la France a des moyens pour soigner des toxicomanes étrangers. On est chez les fous.
Non mais on peut rentrer sur les questions de logement. Il manque 30 000 logements.
Allez,
merci. Qui se construisent.
Les migrants sont prioritaires à chaque fois.
C'est pas vrai, mais ce n'est pas vrai.
J'ai dit 23. Voilà. Je sais que vous avez les oreilles qui résonnent un petit peu. C'est vrai, il y a beaucoup de bruit sur le plateau, je vous assure.
C'est Jean Messia qui est un élève perturbateur.
J'ai dit 23. C'est vrai qu'il y a une question de moyens et d'affectation de l'argent. Ce discours, il est inaudible auprès de beaucoup d'électeurs désormais.
Oui, tout à fait, mais il y a une très mauvaise affectation de l'argent public. Contrairement à Jean Messia, je continue de penser qu'il y a trop de fonctionnaires en France et trop mal répartis. Il y en a beaucoup trop dans les collectivités locales et on connaît tous des exemples d'équipes, de personnels municipaux absolument pléthoriques. Le service de com' de la mairie de Paris, pour ne citer qu'un des plus célèbres. Donc, cette répartition des moyens, des effectifs de l'État, qui n'a jamais été faite, sauf par Nicolas Sarkozy, mais de façon trop systématique, je vous le concède, avec la révision générale.
Il a supprimé les policiers, donc.
Aussi, mais il n'a pas supprimé que des policiers.
Il a aussi supprimé des profs.
Et des juges.
Mais de toute façon, les gens qui considèrent que la France, qui a qui est le champion d'Europe du nombre de fonctionnaires par habitant, doit encore recruter des fonctionnaires.
Oui, mais c'est fonctionnaires territoriaux, vous savez.
Malheureusement, nos services publics fonctionnent. Oui,
mais après, j'entends ce que vous dites, mais en même temps, quand dans cette affaire-là, vous allez dans les hôpitaux, il manque des infirmières et tout ça. Quand vous allez dans les palais de justice, il n'y a pas de greffier. Il n'y a pas de greffier, juste. Les juges ont prononcé la sanction, il n'y a pas de greffier pour l'écrire. Vous voyez, donc on a aussi des difficultés. Je ne vous dis pas que tout est parfait dans la fonction publique et dans les affectations des policiers.
Merci. On va s'interrompre à nouveau. Vous savez ce qu'on va faire la prochaine fois? Je vous invite à regarder le compteur qui est en face de moi. Vous allez voir le même chrono que moi et vous saurez à quel moment on est obligé de s'interrompre momentanément.
Les socialistes ne connaissent pas les compteurs.
Il nous reste une dizaine de minutes.
L'extrême droite non plus, manifestement.
Il nous reste une dizaine de minutes.
On va lui donner un Ausweis à Jean-Michel un peu.
Et on partira à Grenoble avec cette histoire dramatique qui a conduit à la mort d'une jeune fille de 18 ans. Trois policiers sont en garde à vue et le conducteur qui avait initialement foncé sur eux et qui était l'auteur des premiers coups de feu. A tout à l'heure. Avant d'entamer la toute dernière partie de notre débat 90 minutes info, on retrouve Mathieu Devez pour le Flash Info.
Vladimir Poutine finalise l'annexion de quatre régions en Ukraine. Il s'agit de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijja. Le président russe a signé une loi qui nomme officiellement les dirigeants installés par Moscou dans les quatre régions. Le Kremlin avait organisé de prétendus référendums pour rattacher ces territoires ukrainiens à la Fédération de Russie. Dans la foulée, l'armée russe a essuyé de nouveaux revers militaires dans le nord-est du pays et dans la région de Kherson. De nombreuses grandes villes françaises vont boycotter la Coupe du Monde de football au Qatar. La ville de Lyon a annoncé hier soir qu'il n'y aurait pas d'écran géant ni de fan zone pendant la compétition. Selon le maire Grégory Doucet, ce mondial est une abomination sur le plan des droits humains et une aberration écologique. Lyon rejoint ainsi d'autres villes comme Paris, Marseille, Bordeaux ou encore Strasbourg. Enfin, le PSG se déplace ce soir sur la pelouse du Benfica pour la troisième journée de Ligue des Champions. Après deux victoires face à la Juventus et au Maccabi Haïfa, les Parisiens peuvent faire un très grand pas vers la qualification en cas de nouveau succès. Loin d'être facile face à une équipe portugaise qui compte elle aussi déjà 6 points, une rencontre à suivre ce soir sur les antennes de Canal+ à 21h.
Merci Mathieu et à tout à l'heure. On va revenir à cette course-poursuite qui a eu lieu à Saint-Martin-d'Hères, tout près de Grenoble, dans l'Isère, c'était la nuit dernière et qui s'est conclue dans des circonstances dramatiques puisque le conducteur de cette voiture, d'une voiture a ouvert le feu sur des policiers tout en fonçant sur eux, ces derniers qui n'ont eu d'autre choix que de riposter. Et la passagère de ce véhicule, une jeune fille âgée de 18 ans, est décédée après avoir reçu plusieurs coups de feu au cou, notamment. Deux enquêtes ont été ouvertes, les policiers ont été placés en garde à vue. Les explications, Maxime Lavandier.
Du matin, à Saint-Martin-d'Hères, à côté de Grenoble, lorsque les policiers décident de contrôler un véhicule au comportement suspect. Les policiers descendent de leur voiture et se dirigent vers le véhicule suspect. C'est à ce moment-là que tout s'emballe.
Quand il a vu le véhicule de police arriver vers lui, il a pris tous les risques pour échapper à la police, à tel point qu'il a tiré en direction de mes collègues à trois reprises, tout en roulant.
Face au tir de l'individu, les policiers ripostent et une course-poursuite s'engage alors jusqu'à Grenoble. Engagé dans la rue Henri Tarz, le suspect percute une voiture de police et se retrouve dans une impasse.
Mes collègues, pensant pouvoir interpeller cet individu, ont mis pied à terre. Celui-ci a fait demi-tour et l'a enfoncé littéralement dessus. Et donc mes collègues n'ont pas eu d'autre choix pour arrêter cette agression de faire usage de leur arme.
Arrivé à l'intersection entre le cours de la Libération et la rue Albert-Régnier, le véhicule percute une autre voiture, mettant fin à sa cavale.
Mes collègues ont interpellé le conducteur, non sans mal. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont aperçu une personne décédée.
Âgée de 18 ans, la passagère est décédée des suites d'un tir. Le conducteur du véhicule, lui, est un Marocain en situation irrégulière. Une enquête a été confiée au service de police judiciaire de Grenoble, en parallèle d'une autre enquête pour les tirs effectués par les policiers qui sont en garde à vue.
Voilà, et on parlait tout à l'heure des OQTF. Cet homme, on apprend entre-temps, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Jean Messia, réaction.
L'immigration clandestine tue. Voilà. On attend avec impatience d'ailleurs le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qu'il faut d'ores et déjà dire, c'est que bien sûr qu'il faut se désoler de la mort d'une personne et d'une personne si jeune. C'est dramatique. Ce sont des choses qui ne devraient pas arriver dans notre pays. Mais qui est responsable de cette mort? Qui est responsable de ce drame? Sinon, le conducteur qui a pris tous les risques pour forcer un barrage de police, chercher à renverser les policiers d'abord, donc pour les tuer, et chercher ensuite à leur tirer dessus. Ce comportement je crois qu'il n'est pas un comportement de délinquance classique. C'est un véritable comportement de prédation, presque un comportement de personne qui veut affronter l'État, le pays dans lequel il vit, dans une forme de néocolonialisme. Et ce genre de comportement se multiplie sur notre sol et ça n'a plus rien à voir avec une délinquance de droit commun. C'est véritablement un comportement sécessionniste, séparatiste, de gens qui sont chez nous, qui se croient tout permis, y compris de défier nos forces de l'ordre. Et face à ça, évidemment, les policiers sont obligés de se défendre, parce que corollaire de la République française, si face à ce genre d'individus, les policiers ne faisaient rien, et si cet individu, dans sa course-poursuite ou dans sa course folle, en vient à renverser des innocents et à les tuer, on dirait quoi ? On accablerait la police pour n'avoir pas agi. Eh bien là, elle a agi. C'est dramatique. Il y a eu un mort. Ce mort est attribuable au comportement criminel de celui qui conduisait la voiture.
Gilles Vintraube, il y a 3 policiers donc, qui sont placés en garde à vue. Mais on le rappelle, effectivement, c'est la procédure normale hein, dans ce genre de cas de figure.
Et c'est heureux parce que là, on a entendu la version du syndicaliste. Évidemment, il faut que la police et la justice fassent leur travail, vérifient les faits, même si il s'agit d'un étranger en situation irrégulière, donc déjà qui n'avait rien à faire sur le sol français. Évidemment que cet ensauvagement dont on a plusieurs preuves par jour ne va aller que s'accentuant et que le déni et l'encouragement à ne rien faire, qui est le discours habituel de Jean-Luc Mélenchon, qui a plusieurs fois réagi à ce type d'événement dramatique en disant un délit de fuite ne vaut pas une mort d'homme.
La police tue.
La police tue et un délit de fuite ne vaut pas une mort d'homme, ne résout rien du tout et au contraire encourage ce genre de comportement.
Philippe Doucet, Jean Messia, il parle de prédation, de provocation, réaction.
Ouais, enfin, tout ça me paraît totalement excessif. Je pense que malheureusement, les faits sont plus simples que ça. Vous avez un délinquant qui avait peut-être, on verra dans l'enquête, soit de la drogue, soit de la drogue et des armes, ou que sais-je, bien sûr que non, dans sa voiture. Et donc,
divers.
En fait, il gère...
Un fait divers.
Donc, ils sont pas dans... Il n'y a pas de logique politique par rapport à ça, ou de logique religieuse de se dire on fait sécession. On est sur des gens qui sont délinquants, qui d'ailleurs auraient dû effectivement être renvoyés du territoire français... je ne sais pas pourquoi ils sont dehors d'ailleurs, ils ont dû sortir du CRA.
Si vous avez dit tout à l'heure donc, que la justice n'a pas assez de boîtes.
Donc bon, ils sont dehors par rapport à ça. Et donc ils n'avaient pas envie de se faire arrêter tout simplement parce
donc
que je pense
divers.
qu'ils seraient retrouvés à nouveau devant en centre de rétention, etc. Il aurait alourdi, si je puis dire, si besoin en était, son casier. Donc ça c'est la première marque. La deuxième marque sur... je pense que ça fait la deuxième fois, sauf erreur de ma part, qu'il y a une jeune femme, parce que je crois que ça a été le cas aussi dans le 18e. Je pense qu'un certain nombre de passagères qui fréquentent ce type d'individu feraient bien d'être prudentes. Oui, c'était dans le 18e de mémoire.
Parlez d'une gamine de 18 ans.
Voilà, une gamine de 18 ans.
C'était à Paris.
C'était à Paris, tout à fait. Où, effectivement,
on ne peut pas lui dire c'est bien fait pour toi.
Ah, c'est pas ce que je dis. Je dis derrière toutes celles qui fréquentent ce type d'individus ont intérêt à faire attention, parce que si derrière cet individu et d'autres sont délinquants, aujourd'hui on voit bien que les procédures, le nouveau changement, je crois, c'est de 2017.
En tout cas, ils n'ont aucun problème à mettre leur vie en danger, Jean Messia.
En fait, le problème, si vous voulez, c'est que tant qu'on ne traite ce genre de faits que comme des faits divers qui se suivent sans s'agréger, on se condamne à ne rien comprendre. Parce que, évidemment, vous avez cité... le cas de cette jeune fille qui était décédée il y a quelques mois à Paris, dans à peu près les mêmes circonstances, sauf qu'il n'y avait pas eu de coup de feu. Mais les refus d'obtempérer, alors il faut les requalifier, ce n'est pas des refus d'obtempérer qui donnent lieu à ce genre de réaction policière, c'est des tentatives de meurtre avec une arme par destination qui s'appelle le véhicule. C'est ça qui se multiplie. Or, il est difficile aujourd'hui, compte tenu du nombre, non seulement du nombre de refus d'obtempérer, mais du nombre de tentatives de meurtre sur policiers avec une voiture, leur multiplication fait que ça ne peut pas rester des faits divers. C'est un phénomène de société. et qu'il faut qualifier comme tel. Pendant très longtemps, les violences faites aux femmes, on les a qualifiées de faits divers. Aujourd'hui, on parle de féminicide. Aujourd'hui, je vous dis
que la
multiplication des attaques de policiers, la multiplication des attaques contre la France et contre ses représentants représente effectivement un fait de société. Éric Zemmour appelle ça un francocide. Je ne sais pas s'il faut utiliser ce terme, mais en tout cas, il y a quelque chose de cela.
Vous avez employé des mots séparatistes. C'est pas un fait de société, c'est une composante politique ou religieuse. C'est là-dessus que je vous reprenais. On peut considérer que la multiplication des refus d'obtempérer, on peut considérer comme un fait de société. Ça, je peux partager ça sur aujourd'hui le refus d'être saisi par les forces de l'ordre. Ça, c'est une chose. C'est pas la même chose qu'une logique politique consciente de se dire qu'on se fait du séparatisme ou politique. Ou religieux.
Identitaire.
Je pense que la politique et la religion n'ont rien à voir là-dedans. Non, on est dans la délinquance. La multiplication des faits de délinquance peut être un fait de société, comme on peut le voir sur des armes blanches, dans un certain nombre d'endroits, etc. Ça, c'est une chose. C'est pas la même chose que l'immersion politique et religieuse.
Quand c'est accompagné de nique la France et nique la police, d'accord, ce sont les mots qu'on entend dans ces conditions-là, ça ne peut pas être que délinquant et que de droit commun, c'est identitaire.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Vous avez vu, votre face-à-face, il a duré un certain temps quand même.
C'est ce que dit le pédopsychiatre. Merci. Sur la dimension culturelle de la délinquance.
Dans un instant, enfin dans quelques minutes, Laurence Ferrari et ses invités pour le début de Punchline. Et j'aurai plaisir à en retrouver certains d'entre vous à la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Merci à tous pour votre participation. Excellente fin d'après-midi sur l'antenne de CNews. À bientôt.
Merci Nelly.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club, with me, Maisie Williams. And each week, we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from, like, 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.